Et tout de suite, on part au camping, et Billy, oui. Avec votre invité.
Le camping et mon invité qui s'appelle Gilles Bessac. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci. C'est une station de radio qui ne vous est pas inconnue ?
Bah effectivement, j'ai bien connu Sud Radio, effectivement, et je connais toujours Sud Radio en tant qu'auditeur.
Voilà, vous avez été journaliste hein, dans notre station, puis un jour, pourquoi vous avez fait sauter ce pas, j'allais dire, entre le journalisme et venir vous installer en Haute-Vienne, à Chessoux, pour ouvrir et devenir le gérant d'un camping? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors déjà, il y a une vingtaine d'années, lorsque je travaillais parmi vous, j'avais l'occasion de faire des reportages et de découvrir un certain nombre de sites, et notamment des campings.
Mais vous êtes tombé amoureux.
Et puis, comme beaucoup de Français, on a envie de changer à un moment donné de vie, parce que votre vie vous convient, mais vous voulez faire autre chose. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir sauter le pas, et donc c'est fait.
C'est fait. Alors, on vous retrouve à Chessoux, en Haute-Vienne. Je voudrais pas écorcher, quel est le nom exact de votre camping? Comment ça se prononce?
Alors, le camping s'appelle Loussuet. En fait, en occitan, c'est le nom du lieu-dit. En occitan, Loussuet, c'est le sureau.
Ah, d'accord. Très, très bien. Pourquoi avoir choisi ce camping naturiste? C'était bien, c'est important dans votre vie?
Oui, d'abord parce que lorsqu'on a des métiers particulièrement stressants, eh bien, c'est vrai que le naturisme, ça permet de déconnecter, de se mettre au vert pendant un week-end, une semaine, de prendre des vacances. Et puis du coup, pourquoi pas en faire sa vie? Après quelques années, c'était devenu une évidence. Et puis pourquoi la Haute-Vienne? Tout simplement parce que on est tombé un peu amoureux du camping qu'on a trouvé au moment où on a voulu reprendre un camping naturiste. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive et qu'on voit ces 30 heures de baignade sauvage, c'est vrai que nous, en tout cas, ça nous a fait rêver.
Bah oui, vous êtes ce camping hein, à Chessoux et quand même dans une région, on va dire encore vierge. On peut apprécier la pureté de l'espace, la rondeur des collines boisées, des arbres partout. Et votre camping, il n'est pas tout plat à vous, hein?
Alors, effectivement.
Il est en étage, un peu.
C'est ça, en terrasse. On a les emplacements sont plats comme dans tous les campings, mais il y a des terrasses qui permettent pour certains d'avoir la vue sur les collines d'en face, dont vous venez de parler, pour d'autres d'avoir la vue sur le lac, et puis pour d'autres encore, d'avoir la vue sur leurs voisins proches, parce qu'il y a des gens qui aiment venir en groupe entre amis. Et donc, ça permet tous les styles de vacances de pouvoir avoir lieu sur un même camping.
Alors, on va dire un mot de ce lac qui est magnifique, qui est au milieu des arbres, qui est d'une tranquillité. Il n'y a pas un bruit, à part peut-être les grillons, s'il y en a, quoique, si vous êtes un petit peu trop haut, mais les oiseaux. Et puis surtout, ce lac possède une plage de sable fin. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'aller s'entasser ailleurs, franchement?
Alors en fait, la plage de sable fin, c'est en plus une plage dont le sable, on a tenu à respecter les lieux, et du coup le sable qui est au bord du lac, c'est du sable qui vient en fait des rivières d'ici, ce qui fait qu'on n'est pas allé ramener du sable de bord de plage, on a un vrai sable de rivière avec des pontons qui vous permettent de dorer au soleil, même au milieu du lac, et pour certains... malheureusement sans crème de soleil, donc quelques campeurs qui font pas suffisamment attention parfois, mais c'est vrai qu'on est isolé. Pour les gens qui aiment se mettre au vert, c'est un lieu qui est plutôt agréable, ça change, c'est différent de la côte. En fait.
Ouais, alors effectivement, vous le dites, vous êtes isolé, mais si on a envie de pain frais, le boulanger il passe chaque jour sur votre terrain de camping, ça c'est très appréciable. Et puis ceux qui voudraient faire des visites, je rappelle que vous êtes à 3 km à peu près de Saint-Léonard-de-Noblat, qui est une petite ville médiévale. Hein. Et puis à combien de Limoges?
Alors on est à 35-40 km de Limoges et on est un tout petit peu plus loin de Saint-Léonard, on est à une quinzaine de kilomètres de Saint-Léonard et on est effectivement tout près. En fait on est à mi-chemin entre Saint-Léonard, Guéret dans la Creuse, on est à 35 km de Limoges, on n'est pas très loin d'Aubusson, de Bourganeuf, enfin on est sur une zone un petit peu centrale, et puis on est au cœur du parc naturel régional de Mille Vaches.
Et en tous les cas, c'est absolument magnifique. On tenait à vous avoir ce matin pour savoir si, premièrement, votre reconversion se passait bien, à entendre votre voix. C'était une zénitude absolue, et j'ai l'impression que vous êtes très heureux d'avoir troqué les micros pour la forêt.
Ah, de ce côté-là, je ne vais pas du tout vous contredire, d'autant plus que pour ce qui me concerne, non seulement le changement est effectivement professionnel, puisque je suis sur le camping Loussuet, mais j'y vis toute l'année désormais, donc ça me va très très bien.
Voilà, et bien évidemment, pour tous ceux qui vont aller dans votre camping, on écoute Sud Radio. Voilà. Oui, ça vous laisse sans voix, ça. Merci beaucoup Gilles d'avoir vanté les mérites et le charme de cet endroit. Je rappelle que votre camping est à Chessoux, en Haute-Vienne. Il est 8h51, on continue ce matin sur Sud Radio.
Bah oui, bon courage aux campeurs, bonne journée aux campeurs surtout.
Bonne journée, voilà. Ils vont plonger une tête dans le lac limpide avec une eau magnifique. Benjamin, mieux dans ma vie.
Ouais, tout de suite c'est Cécile Tardy qui arrive. Comment retrouver un bon climat à la maison, un climat apaisé, bien c'est la question que l'on se pose avec elle, avec Cécile Tardy, mieux dans ma vie.
Sud Radio, mieux dans ma vie, Cécile Tardy.
Bonjour Cécile.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Alors place aujourd'hui aux travailleurs, que vous soyez en vacances ou au bureau, ne bougez pas, on vous explique eh bien, comment installer un bon climat à la maison pour trouver un super équilibre de vie avec le travail, c'est très important ça Cécile.
Ah oui, ça compte, hein. Et puis concilier tout le travail à la maison avec une activité professionnelle, c'est souvent une prouesse qui relève effectivement d'un haut degré d'expertise, à part que effectivement les grands experts, par exemple les acrobates, eux, ils ont appris leur métier d'acrobate, alors que vous formez sur le tas avec plus ou moins de succès. Alors, quand on cherche à s'épanouir professionnellement, c'est fondamental d'aller visiter aussi ce qui se passe à la maison. L'un ne va pas sans l'autre.
Ça va avec.
Les clients qui viennent me voir, en fait, quand ils me consultent, parce qu'ils sont en plein chaos professionnel, parce qu'ils sont en stress, en épuisement, en burn-out, ils commencent évidemment par me parler de tout ce qui va mal au bureau. Et puis moi, très vite, je les conduis à aussi me raconter ce qui se passe à la maison, tout simplement parce que on ne peut pas vous couper en deux, on ne peut pas dire qu'il y a une partie de vous qui relève du pro et puis une partie de vous qui relève du privé.
Mais c'est dommage, ça serait pratique, on serait plus tranquille comme ça.
Oui, je sais, désolée. Mais on peut quand même trouver une tranquillité en conciliant toutes ces parties de nous. Mmh. Et ce qui se passe en fait à la maison, ça contribue au bien-être au travail.
Ouais.
Et ça commence par votre entourage. Les personnes avec qui vous vivez, votre conjoint, vos enfants, vos parents, pourquoi pas vos animaux aussi, et votre télé si vous passez beaucoup de temps avec votre télé. Qui est-ce que vous côtoyez au quotidien? Qui est-ce que vous fréquentez?
Ça peut être aussi les amis aussi, on n'en a pas parlé, si on vit seul.
Oui, pour les personnes qui vivent seules, bien sûr, je parle de l'entourage sous votre toit ou dans votre sphère privée. Est-ce que vous avez un entourage qui vous allume ou qui vous éteint? J'aime bien cette expression, et elle est
comme
très imagée, elle parle très bien. Est-ce que c'est des personnes qui vous portent, qui vous ressourcent? Est-ce que vous passez des super moments avec elles? Est-ce que vous avez hâte de les retrouver le soir? Est-ce que vous avez de beaux souvenirs en commun? Vous avez de beaux projets? Vous pouvez compter sur elles? Vous pouvez tout leur dire? Elles vous admirent? Est-ce que c'est ce genre de personnes que vous avez au quotidien? Ou bien,
ça c'est top,
effectivement, on en redemande. Ou bien, je vais prendre l'exemple un petit peu inverse pour vous faire comprendre. Est-ce que c'est des personnes qui sont négatives, qui sont râleuses, qui sont critiques? Des personnes qui pompent votre énergie, qui vous rabaissent trop souvent, qui sont rabat-joie.
Ah, c'est pas simple quand même de se poser ces questions, c'est terrible d'en venir à ça.
Oui, ouais. je sais, c'est une caricature,
c'est
en même temps, hein. J'ai quand même pris des extrêmes, donc, mais c'est rarement tout blanc ou tout noir.
Oui, bien sûr.
Alors demandez-vous quand même si globalement c'est plutôt blanc ou plutôt noir, et puis surtout, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce soit plus blanc, plus ressourçant? Et encore une fois, je le vois avec tous mes clients, si la journée au bureau est stressante et qu'à la maison, c'est la deuxième couche de stress parce que l'entourage est toxique, l'implosion est imminente.
Ah ouais, là, c'est là où on a la bascule. En fait, donc on fait un peu de ménage dans nos relations pour qu'elles soient plus reposantes. En fait, c'est ça l'idée.
C'est ça, exactement. Et au-delà d'entourage aussi, pour que le climat à la maison soit plus propice à un équilibre, vous pouvez commencer par installer une relation plus saine avec vous-même.
Ah d'accord, on commence par soi-même.
Oui, par soi-même, exactement. Prenez soin de vous comme vous le feriez avec un enfant. Donc prenez soin déjà de votre sommeil, régulez vos horaires de coucher, occupez-vous de vos insomnies si vous en avez.
Ça commence souvent par là.
C'est ça, exactement, si ça met la puce à l'oreille. Prenez soin aussi de votre alimentation parce que votre corps, c'est ce que vous avez de plus sacré. Vous n'en avez qu'un. Vous ne pouvez pas en changer, effectivement. Donc, ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps, comme vous ne mettez pas n'importe quoi dans votre réservoir de voiture. Mmh. C'est la même chose.
Il faut des bons aliments, des bonnes boissons.
Exactement, bien sain, parce qu'on sait que tout ce qui est industriel, ça va sur le court terme. Ce n'est pas porteur d'énergie. Quand vous êtes crevé, ce n'est pas le moment justement de fatiguer encore plus votre corps avec des aliments qui sont lourds à digérer. Donc, c'est le moment d'alléger. Et puis, profitez de votre temps libre pour bouger votre corps. Faire du sport, de la marche, des câlins, des massages. Tout ce qui va vous permettre en fait de réguler la pression et de vous faire vraiment plaisir. Et puis aussi, dites-vous des mots doux soyez gentils avec vous-même.
Allez, on est gentils avec vous, Cécile, on est gentils avec nos auditeurs aussi.
Oui,
allez,
on les adore,
merci,
on les embrasse.
À vous, et puis à demain, Cécile.
À demain.
Voilà, on se fait des, pas des compliments, mais on se fait des petits cadeaux, comme ça, en se disant, bah tiens, t'as pas mal travaillé ce matin, Benjamin.
Mais oui.
Ça fait plaisir.
Hein. Ben oui, c'est ça, faut s'auto-encourager.
Voilà, Cécile Tardy, qui est notre coach de vie, qui reviendra évidemment dès demain sur Sud Radio. À suivre, l'info vérité, c'est notre débat du jour, juste après 9h, le sujet, Benjamin.
Oui, le sujet, c'est blues des maires municipales. Avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune pour les élections? Ça sera dans 7 mois. Bien sûr, on parle de la mort du maire de Signes, un hommage lui sera rendu dans sa commune aujourd'hui. Certains maires disent maintenant haut et fort les violences qu'ils subissent au quotidien et s'inquiètent pour la suite. On en parlera bien sûr. Vous nous appelez au 0826 300 300, et puis vous votez bien sûr sur notre compte Twitter Sud Radio. Le sondage est en ligne, on n'attend plus que vos avis.
Et à suivre, l'horoscope et la météo de Rémi André.
Sud Radio, 6h-10h, le grand matin été. L'horoscope Sud Radio.
Et l'horoscope, c'est avec vous, Trina, bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 août.
Bélier, vous avez des compétences et votre personnalité est riche. Vous êtes capable d'obtenir un poste dans lequel les valoriser.
Taureau, restez transparent dans vos démarches. On pourrait vous soupçonner de faire des bénéfices sans en faire profiter ceux qui vous ont aidé.
Gémeaux, votre sécurité sera au cœur de vos préoccupations, mais la chance est avec vous. Pensez aussi à vous reposer.
Cancer, vous avez raison d'accorder votre confiance avec parcimonie. Appliquez ce principe de précaution, vous êtes quelqu'un de lucide.
Lion, ne faites pas l'autruche, vous en êtes capable. Les résultats sont porteurs de sécurité. Prenez le temps de dialoguer.
Vierge, appuyez-vous sur votre expérience professionnelle pour réussir à passer un cap. C'est comme ça que vous franchirez tous les obstacles.
Balance, surtout ne négligez aucun effort pour aller vers l'autre et lui donner le sentiment d'être important à vos yeux.
Scorpion, partagez vos bonnes idées avec ceux en qui vous avez confiance et qui pourront vous suivre dans vos démarches financières.
Sagittaire, c'est en vous montrant déterminé que vous éloignerez les doutes des autres à votre sujet. Pensez-y.
Capricorne, vous aimez livrer bataille. Aujourd'hui, jouez les stratèges. Ne dévoilez pas tout de suite votre jeu et gardez votre sang-froid.
Verseau, l'égoïsme est à proscrire. Alors soyez apte à faire des compromis et à ouvrir le dialogue.
Poisson, laissez-vous guider par votre instinct, quoi qu'on vous dise. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
La météo Sud Radio.
Avec Nature et Résidence, devenez propriétaire de votre résidence secondaire dans des sites exceptionnels partout en France sur natureetresidence.com.
Et pour la météo, on retrouve Rémi André. Journée calme aujourd'hui, Rémi.
Oui, effectivement, le temps redevient bien ensoleillé dans l'ensemble, notamment sur la moitié sud, car au nord de la Loire, on aura encore pas mal de nuages, mais la luminosité sera assez belle entre le bassin parisien et le Grand Est. Sur la moitié sud, c'est donc le soleil qui domine avec des températures chaudes. Il pourra faire jusqu'à 35 degrés à Toulouse et à Nîmes, alors que sous la pluie, on restera à 20 degrés à Brest et à Cherbourg.
Et la météo des plages, ça donne quoi, Rémi ?
Eh bien, écoutez, au niveau des plages, on profite de cette belle amélioration. Bah oui. Sauf sur les plages de la Bretagne, la Normandie, sous les nuages et la pluie, mais un ciel plus lumineux en remontant vers la mer du Nord. Sur toutes ces plages, on sera entre 20 et 25 degrés de maximum. L'eau est entre 18 et 20 degrés. Et les indices UV sont évidemment faibles de niveau 3 à 4. Sur les plages des Charentes et d'Aquitaine, là, le soleil va dominer sous des indices UV forts de niveau 6 à 8 et des températures chaudes jusqu'à 29 degrés. Enfin, pour la Méditerranée, on profite du grand soleil, là aussi, sous des UV forts de niveau 8 et des températures qui atteindront les 31 degrés. L'eau est à 24 degrés au Canet en Roussillon et on atteindra même localement 27 degrés dans l'eau sur la Côte d'Azur. Alors pour la plage du jour, on a choisi une eau plus fraîche à 21 degrés au débouché de l'Adour. Là, au sud du fleuve, on est au Pays Basque évidemment. La plage des Cavaliers d'Anglet est l'une des plus belles plages de la station balnéaire. Elle est reconnue à travers le monde entier pour ses vagues puissantes. Cette plage accueille de multiples compétitions de surf et sur cette belle plage des Cavaliers, il y fera jusqu'à 29 degrés. Alors n'oubliez pas le chapeau et la crème solaire.
Oui, on n'oublie pas. Merci beaucoup, Rémi André.
Bonne journée à tous. Vous écoutez Sud Radio. Il est 9h02.
Sud Radio. Parlons vrai.
Et tout de suite, le flash de François Germain. Bonjour.
Bonjour à tous. Une journée placée sous le signe de l'émotion à Signes, dans le Var. Quelques jours après la mort du maire renversé par le conducteur d'une camionnette, un rassemblement est prévu cet après-midi devant l'hôtel de ville. Une minute de silence sera respectée. Et quant à l'enquête, le chauffeur de l'utilitaire a été mis en examen pour homicide involontaire, mais laissé en liberté. La piste de l'accident est privilégiée. Selon la déclaration du suspect, il voulait s'enfuir après avoir été surpris par le maire en train de décharger illégalement des gravats. Des nouveaux éléments autour de l'accident de bus de Mias dans les Pyrénées-Orientales. Accident qui avait coûté la vie à 6 collégiens il y a presque 2 ans. Selon les dernières expertises médicales, il n'y a aucun lien entre l'accident et le traitement médicamenteux de la conductrice. La conductrice s'est mise en examen pour homicides et blessures involontaires par imprudence. L'incendie qui a brûlé 90 hectares en Ardèche serait d'origine criminelle. 300 pompiers sont venus à bout du sinistre hier après une nuit de combat. L'enquête se poursuit pour tenter de trouver le responsable des flammes. Un accueil tendu pour Donald Trump à Dayton et El Paso, les deux villes endeuillées par des fusillades qui ont fait 31 morts. Le président américain est allé sur place. Il a notamment rencontré des personnels hospitaliers qui sont intervenus pour secourir les blessés. À El Paso, ville à majorité hispanique, des centaines de manifestants ont accusé Donald Trump de propager un discours de haine qui attise les comportements violents. Si vous utilisez Twitter, vos données personnelles ont peut-être été utilisées à des fins publicitaires sans votre consentement. Le réseau social reconnaît qu'une partie de ses membres a reçu des publicités ciblées issues de données personnelles collectées sans autorisation. Selon Twitter, l'erreur vient d'être corrigée et une enquête est en cours pour déterminer combien d'utilisateurs ont pu être concernés. Et puis tout va bien pour nos tennismen français au tournoi de Montréal. Qualification pour les huitièmes de finale de Gaël Monfils, Adrian Manarino et Richard Gasquet. Richard Gasquet qui a éliminé le numéro 6 mondial, le japonais Nishikori. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente matinée.
Merci à vous François Germain. Allez, les courses avec les pronostics de Jean-Paul Delperrier. Aujourd'hui, pour le quintet, direction l'hippodrome d'Anguin. Jean-Paul Delperrier vous conseille de jouer le 4, le 10, le 14, le 6, le 7, le 2, le 8 et le 13. 4, 10, 14, 6, 7, 2, 8 et 13. Les pronostics de Jean-Paul Delperrier sont à retrouver, bien sûr, sur sudradio.fr.
Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy.
Et voici notre débat de la matinée, Benjamin, avec cette question qu'on pose à nos auditeurs. Avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune parce que les maires sont peut-être épuisés, lassés, fatigués, peut-être
qu'ils ont moins de pouvoir, peut-être aussi, peut-être que la fonction est moins respectée aussi, ça joue peut-être. En tout cas, c'est la question que l'on vous pose. Hein. Avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune pour les prochaines municipales qui seront dans 7 mois? Vous continuez de voter sur notre compte Twitter Sud Radio. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. On va avoir nos invités dans quelques instants, quelques tout petits instants, le temps eh bien, d'avoir de donner peut-être un indice à nos auditeurs pour le tube de l'été, ça sera juste avant 10h.
Alors le tube de l'été va être un petit peu difficile à retrouver aujourd'hui, peut-être pour nos auditeurs et pour vous Benjamin, y compris pour Mathilde qui est déjà en studio avec nous. Donc je vais vous donner 2 indices pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'il y en a un gratuit, je vous annonce que c'est un duo.
C'est généreux, hein.
Voilà. C'est un duo, voilà, ça je vous le dis. Et premier indice, notez-le bien, c'est un beau roman. C'est une belle histoire.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Oui.
Allez savoir. C'est un duo et c'est un beau roman, une belle histoire. Résultat tout à l'heure, juste avant 10h. Pour l'instant, 9h05, c'est le début du débat.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Et oui, c'est parti pour le débat ce matin avec notre info vérité. C'est notre question du jour. Blues des maires, avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune pour les prochaines municipales? Je vous le disais, les élections, c'est dans 7 mois. Et un maire sur 2 envisage de ne pas se représenter. Alors, ils estiment pour certains avoir moins de moyens, moins de pouvoir. Ils dénoncent aussi la hausse des incivilités, des menaces, des violences auxquelles ils sont confrontés. On va en parler avec nos invités qui ont accepté de débattre avec nous. Je voulais présente sans plus tarder. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
On est aussi avec Jean-Luc Thomas, bonjour, maire de La Fox dans le Lot-et-Garonne.
Bonjour.
Marie-Jeanne Béguet est aussi là avec nous, présidente des maires ruraux de l'Ain. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Et puis un maire, le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, est avec nous aussi. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va en débattre ensemble pour la prochaine demi-heure de cette question. Mais tout d'abord, on va faire un tour du côté de nos réseaux sociaux. Mathilde, qu'est-ce que ça donne du côté de Twitter?
Eh ben non à 79%, oui à 21%, oui car la politique intéresse, mais pour Paysan 47, le dévouement d'un maire pour sa commune lui existe encore. Un auditeur nous dit non, lui parce qu'il habite dans une grande ville, mais il estime que les petites communes ont du souci à se faire. On attend vos appels au 0826 300 300 ou sur le compte Twitter de Sud.
Radio.
Et on commence à en débattre ici sur Sud Radio avec nos invités. Jean-Marie Villain, vous êtes le maire de Viry-Châtillon. On l'a vu avec le drame qui a secoué la commune de Signes avec la mort de son maire. Alors, pour des raisons a priori de ce qu'on en sait de l'enquête, qui serait accidentelle. En tout cas, cette question de la violence, elle est importante dans le quotidien d'un maire comme vous, maire de Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Oui, c'est au quotidien parce que au-delà des incivilités, des agressions physiques, même si ce que j'ai pu subir il y a deux ans maintenant lors de l'installation de gens du voyage sur un terrain de rugby.
Qu'est-ce qui s'était passé, hein?
Je suis fait un peu, que la nuit vers 21h, 22h, j'ai appris par des riverains qu'une centaine de caravanes était en train de s'approcher du terrain de rugby. Donc moi je me suis levé, je suis allé avec mon directeur de cabinet, on est allé sur place. Et puis on s'est mis devant, tout simplement. Moi je me suis mis devant les véhicules à l'entrée. Et puis très rapidement, deux trois personnes sont arrivées, puis m'ont tapé dessus, m'ont mis sur le côté, et puis avec des coups dans les côtes, etc. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque une préfète qui était particulièrement réactive et qui a envoyé et le DDSP et puis son directeur de cabinet sur place, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de forces de l'ordre et qui ont malheureusement pas pu empêcher malgré tout l'arrivée des gens du voyage. Et c'est aussi au quotidien, c'est les insultes, c'est les menaces. Alors c'est le fait d'un très petit nombre si on
c'est
regarde.
C'est une minorité,
bien.
Ouais.
C'est une très large minorité, mais ce qui est ennuyeux, c'est que c'est quelque chose avec les réseaux sociaux qui se développe, et c'est presque le sentiment d'impunité qu'on peut avoir lorsqu'on fait ce genre de choses. On peut subir des pressions parce qu'on a refusé un permis de construire qui n'était pas conforme au PLU, par exemple, ou parce qu'un commerce ouvre sans commission de sécurité, alors que on imagine bien qu'un maire comme nous le sommes, on veut pas du tout pouvoir laisser un restaurant ouvrir avec le risque d'avoir un drame qui s'y passe quelques semaines après. C'est ça. Vous savez, quand vous arrivez devant la mairie, après avoir fait une tournée dans la ville de repas de quartier, par exemple, et puis qu'il y a une voiture qui vous suit, qui vous demande pourquoi vous avez refusé l'ouverture d'un restaurant, et puis qu'on vous dit à la fin de la discussion, de toute façon, vous inquiétez pas, on sait où vous habitez.
Oui.
Alors,
c'est incroyable.
C'est pas grand chose. Mais par contre, c'est vrai que
c'est une pression énorme.
En question dans votre tête le soir quand vous rentrez ou pour votre famille, pour vos proches, vous vous posez la question de savoir si tout ça, ça vaut bien la peine. Puis finalement, jour après jour, vous recommencez parce que vous dites que c'est cette petite minorité qui doit décider de ce que vous faites et de votre action municipale. Moi, je trouve que ça fait 5 ans et demi que je suis élu maire à Châtillon. Je peux vous dire que c'est une passion et je continue d'avoir la même passion et que c'est pour cette raison que, bien évidemment, moi, je continuerai. Il est hors de question de laisser la parole et puis le pouvoir à ceux qui considèrent que la violence, c'est ça qui doit déterminer notre façon d'agir.
Alors, on est avec un maire qui, lui, a décidé de ne pas se représenter. Alors, il va nous expliquer ses raisons. Là, on est moins sur les questions de sécurité. Jean-Luc Thomas, vous êtes le maire de La Fox dans le Lot-et-Garonne. Vous avez décidé de dire stop finalement pour les élections municipales de 2020. Vous ne serez pas candidat.
Non, effectivement, j'ai décidé de ne pas me représenter. Bon, la situation est un petit peu particulière puisque moi j'ai pris mes fonctions de maire suite à l'élection sénatoriale il y a 2 ans. Mmh. Je suis un jeune maire finalement.
Tout récent.
À la base, j'étais adjoint au sein de la commune et donc je viens de la société civile. Hein, je suis chef d'entreprise à côté et donc les événements ont fait que j'ai eu cette opportunité de devenir maire parce que effectivement, c'est comme le disait mon collègue, c'est un métier. C'est pas un métier, mais c'est une fonction qui est passionnante et qui a de multiples intérêts. Alors bon, moi j'ai la chance d'être quand même dans une commune rurale, 2200 habitants, on n'a quand même pas les mêmes difficultés au niveau de la violence au quotidien, même si des fois effectivement ça peut arriver, qu'on peut subir un certain nombre de pressions quand on ne va pas dans le sens que souhaite un administré, mais bon, c'est pour moi c'est pas forcément la raison majeure du fait que je vais pas me représenter, mais c'est surtout que être maire dans une petite commune, c'est extrêmement chronophage parce que on ne bénéficie pas forcément de toutes les équipes, toute la structure administrative qui va bien et que du coup on est confronté à être sur le front en permanence sur tous les sujets. Il faut être au fait de plein de thématiques différentes et qu'on est systématiquement en première ligne et que on est maire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tout et pour parfois des petits problèmes de quotidien et autres, mais on est obligé d'être, de répondre présent et de pouvoir être constamment disponible. Et ça, c'est pas toujours évident, et moi j'estime que c'est pas facile aujourd'hui de mener à bien cette mission-là, et mission professionnelle,
votre profession.
Voilà. J'ai pas une entreprise, j'ai pas une multinationale, j'ai pas un staff énorme autour de moi, et donc quand je suis pas présent dans l'entreprise, c'est une part importante de l'activité qui se fait pas.
Oui, bien sûr. Marie-Jeanne Béguet, vous êtes présidente des maires ruraux de l'Ain. Sur les retours que vous avez des maires, justement, du département, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport aux élections municipales qui arrivent l'an prochain, en mars, à savoir, est-ce que sur des communes, il risque de manquer de candidats ?
Alors, effectivement, j'entends dire des choses contraires. D'une part, des gens qui ont dit « ça y est, j'ai constitué mon équipe, je suis prêt ». Et puis d'autres qui disent « je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas s'il y aura des candidats ». Mais est-ce que c'est pire que cela fut il y a des mandats antérieurs ? Je n'en suis pas sûr.
Vous n'avez pas, vous n'avez pas de retour, en tout cas, en ce sens.
Par contre, je voudrais revenir sur ce qu'ont dit mes collègues précédemment.
Oui.
Je partage une grande partie de ce qui a été dit, mais notre collègue qui a dit ça concerne qu'une petite partie de la société d'être vindicatif.
C'était Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon.
Voilà, je partage pas tout à fait ce point de vue et je pense que c'est une évolution assez récente et qui est grave pour la société.
C'est-à-dire que c'est généralisé,
que quand on s'oppose avec la loi pour nous, hein, je dis bien, parce que le règlement du plus dit que c'est d'une manière, quand on s'oppose à un projet, quand justement on fait remarquer que on n'a pas le droit de déposer des déchets et que c'est verbalisé, etc., souvent les citoyens ont des réactions qui sont tout à fait inappropriées. Inapproprié.
Démesuré peut-être et grave.
Dans certains cas, insultes, bien sûr. Bon, je n'ai jamais eu de sévices physiques, mais par contre, c'est très couramment que les gens nous parlent très mal. Et ça, je pense aussi que la plupart des citoyens ne respectent pas la fonction et peut-être n'en comprennent plus bien le sens.
Justement, Benjamin Morel, c'est surprenant puisqu'on sur les sondages, on voit que les maires sont les élus préférés des Français, mais sur le terrain, eh bien, on entend ces maires qui nous parlent justement ce matin. On a ce sentiment que il y a des sensibilités qui progressent et ce sentiment que la fonction n'est plus respectée.
Si vous voulez, il y a deux phénomènes qui me semblent se conjuguer. Premièrement, vous avez un maire qui est l'élu de proximité par excellence. Donc, ce qui induit un rapport direct avec la population qui conditionne en grande partie sa popularité. Parce que justement, le maire, généralement, surtout dans les communes rurales ou dans les petites communes, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un à qui vous avez l'habitude de vous adresser. Et en même temps, eh bien, ce maire, c'est du coup celui qui est en première ligne. C'est-à-dire que, notamment, encore une fois, dans les petites communes où il n'y a pas forcément de forces de sécurité, de police municipale qui sont extrêmement développées, le maire a tout de même comme mission d'assurer l'ordre public, et donc il se retrouve souvent à devoir intervenir, ce qui le met dans une situation où il est confronté directement à cette montée d'incivilité qui n'est pas dirigée uniquement contre le maire, si vous voulez, qui n'est même pas réellement dirigée contre le maire, mais qui est un fait social un peu plus large auquel ont affaire ces maires. Le deuxième phénomène à considérer, c'est que justement ce maire que vous connaissez, ce maire qui donc incarne le premier échelon politique auquel vous avez accès, et donc ce maire qui a une forte responsabilité parce que c'est lui qui répond des politiques municipales, ce maire, on a aujourd'hui corseté beaucoup ses pouvoirs. On les a corsetés de plusieurs façons, à travers le développement de grandes intercommunalités dont l'organisation a parfois été extrêmement autoritaire, notamment depuis 2010, et la loi NOTRe n'a rien arrangé. Et d'un autre côté, avec évidemment des baisses continues des dotations qui font qu'aujourd'hui les marges de manœuvre des maires sont beaucoup moins grandes pour agir réellement sur le réel. Quand on attend de vous, parce que vous êtes l'élu de proximité, que vous agissiez sur le réel, mais que vous n'en avez pas les moyens, évidemment ça crée des complications. Et historiquement, quand on regarde un petit peu, quand on interrogeait les politiques, le mandat de maire était loin d'être celui justement où on se sentait mal. La plupart des députés qui avaient à choisir entre, au moment de la loi sur le cumul des mandats, entre leur mandat de maire et leur mandat de député, soit quittaient avec regret le mandat de maire, soit on préférait le mandat de maire parce que justement, ce mandat de maire, c'est celui qui vous permettait d'être en contact et d'agir sur le réel. Si on tue ça, eh bien, c'est pas que pour les maires que c'est dommageable, c'est réellement pour la République et pour la démocratie, parce que la commune, bah, c'est une petite république au sein de la grande.
On va remercier Jean-Luc Thomas, maire de La Fox, qui ne se représentera pas en 2020, qui est avec nous dans le Lot et Garonne. Jean-Luc Thomas, vous reconnaissez justement dans ce que dit Benjamin Morel à l'instant?
Pas complètement. Je pense que aujourd'hui, les intercommunalités apportent à la fois une capacité, une force de frappe qu'une commune de ma taille ne pourrait pas mener. Je pense à des projets structurants de voirie ou de choses comme ça. Par contre, ça rend la lecture vis-à-vis des administrés très compliquée, parce que qu'est-ce qui est de la responsabilité du maire, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'interco, c'est pas forcément
c'est le fameux millefeuille.
Parce que justement, et d'une intercommunalité à l'autre, les responsabilités sont pas les mêmes. Donc, c'est pas forcément très facile à lire, et donc souvent les gens nous interpellent sur des sujets sur lesquels effectivement on a pas la main. Pour le par contre, pour l'année prochaine, moi je reste quand même confiant sur le fait qu'on puisse
il y aura des candidats.
Voilà, construire une nouvelle liste et qu'il y ait des candidats. Alors c'est vrai qu'il y a plus facilement des gens qui veulent s'investir sur des postes d'adjoint ou de conseiller que pour le poste de maire et pour être sur la tête de liste, mais je suis quand même confiant sur le fait qu'on va pouvoir le construire dans les mois qui viennent.
Merci à vous Jean-Luc Thomas, maire de La Fox dans le Lot-et-Garonne, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle la question municipale: avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune? On fera un retour sur les sondages dans quelques instants, juste après une page de pub. On se retrouve tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée.
Et le débat avec vos réactions, bien évidemment, qui arrivent sur notre standard 0826 300 300, mais également les réseaux sociaux via Twitter. Benjamin, ce matin, on se pose la question: avez-vous peur de ne pas avoir d'élus aux prochaines élections dans vos communes?
De candidats, effectivement, pour ces municipales qui arrivent à grands pas. On va faire un tour rapide sur les réseaux sociaux. Avec vous, Mathilde Chouin, ça donne quoi au niveau du vote de nos auditeurs?
Pas de peur pour nos auditeurs, ils nous disent non à 82%.
Eh ben, ils sont rassurés. On va justement rejoindre un de nos auditeurs qui nous a appelé au 0826 300 300, c'est René de Vabre dans le Gard. Bonjour René.
Oui, bonjour messieurs, dames.
Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Dites-nous, vous avez peur dans votre commune, donc de Vabre?
Oui, notre maire a déjà donné sa démission il y a 2 mois.
Ah d'accord, ok. C'est une commune de combien d'habitants?
Oh, 800 habitants à peu près.
D'accord, ouais.
Il nous a envoyé une petite lettre très polie en nous expliquant qu'il pouvait pas continuer. Mais enfin, ça c'est l'explicite. Et l'implicite, il a pas voulu en parler, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et sa remplaçante, la première adjointe qui a pris la succession maintenant, fait très bien son boulot. Hein. On a une mère qui est parfaite. Mais de là à dire qu'elle va se représenter, ça c'est autre chose.
C'est pas sûr.
Voilà. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de voter pour des partis politiques. Qu'on vote pour un homme qui aime son village.
C'est le plus important dans les villages, bien sûr.
Au départ, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que là, on vote pour des partis politiques, on ne sait pas pour qui on vote.
Eh ben, ok. Ben, on a entendu votre avis, René Deva. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler. Nos invités pour en débattre: Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, qui est toujours là. Marie-Jeanne Béguet, présidente des maires ruraux de l'Ain aussi. Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, qui nous racontait les violences au quotidien tout à l'heure. Et puis Patrick Canner nous a rejoint, président du groupe PS au Sénat. Bonjour Patrick Canner.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. La commission des lois à laquelle vous êtes a demandé, a lancé une consultation qui doit débuter, je crois, la semaine prochaine sur cette question des violences, parce que c'est un sujet qui ressort de plus en plus, bien sûr, avec le drame qu'on a connu du côté de Signes.
Oui, tout à fait. Derrière le mot violence, il y a un autre mot qui rime bien, c'est le mot d'attente. En fait, je crois qu'il y a un décalage extraordinaire entre les capacités des élus locaux, et notamment des maires des petites communes, et les attentes de nos concitoyens qui en demandent peut-être trop. Ils considèrent le maire comme étant quelque part leur serviteur, sans se rendre compte finalement qu'il n'est qu'un concitoyen parmi d'autres, avec une responsabilité particulière, une responsabilité qui aujourd'hui est mise à mal par ces incivilités permanentes, ces menaces. J'ai entendu votre reportage depuis le début, de votre émission depuis le début. On voit bien qu'il y a une forme de saturation. Et c'est pour ça que la commission des lois a décidé, et cette commission qui aujourd'hui est connue du grand public pour d'autres affaires, si vous voyez à quoi je peux faire allusion, cette commission des lois a décidé de prendre sa place, et surtout de lancer une enquête dans le cadre de
l'examen. On la connaît pas forcément, cette violence, en fait.
Cette violence, elle est parfois cachée, y compris par les maires qui n'ont pas envie, de se mettre en avant, voire même d'avoir peur de quelques représailles. Ça a été évoqué aussi dans vos différents reportages.
Tout à fait.
C'est pas acceptable qu'un maire se dise mais je ne vais pas aussi loin que le droit me l'autorise parce que j'aurais peur pour ma voiture, pour mon habitation, ou pire, pour mes proches. Et donc nous, ce que nous voulons au niveau de la commission des lois, et Philippe Bas a lancé cette opération, le président de cette commission au Sénat, ce que nous voulons, c'est décrypter. Vous savez, pour pouvoir agir, il faut comprendre les choses. Et cette commission, cette étude, j'espère, sera extrêmement suivie par l'ensemble des 36 000 maires de France, et que nous aurons là une matière qui sera très riche, je l'espère, encore une fois, pour enrichir un texte qui est celui qui va bientôt arriver sur le bureau du Sénat, à savoir le texte engagement et proximité proposé par M. Le Cornu.
Qui doit permettre justement d'améliorer les conditions pour l'élu qu'est le maire. Jean-Marie Villain, vous êtes maire de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, où vous nous avez parlé de ces violences tout à l'heure, des violences au quotidien. Vous attendez quoi de cette consultation? C'est une bonne chose pour vous, hein?
De toute façon, c'est toujours une bonne chose qu'une commission parlementaire se saisisse d'un problème qui est maintenant récurrent. Je voulais juste revenir sur mes premiers propos. Je parlais bien des agressions violentes quand j'ai parlé d'une minorité. Il est bien évident, et je partage totalement l'avis de ma collègue, à savoir que les incivilités, et ça c'est un problème d'éducation. C'est peut-être les parents qu'il va falloir commencer à éduquer aussi de temps en temps pour leur expliquer que si eux-mêmes commencent déjà à respecter la loi, tout simplement, ne serait-ce que quand on amène ses enfants à l'école et qu'on veut absolument mettre la voiture à l'intérieur de la classe pour pouvoir déposer l'enfant, et plutôt que de se garer à 50 mètres dans un endroit sécurisé, déjà peut-être que les enfants comprendraient qu'un petit peu plus tard, il ne faudra pas forcément insulter le premier policier qui passe parce qu'il aura empêché de jouer au ballon à un endroit où c'est dangereux, par exemple. Vous voyez, c'est ça, c'est ce quotidien-là. Et puis cette commission permettra justement de bien montrer que c'est vrai que les grandes communes comme les miennes ont effectivement un avantage. En tout cas, les élus comme moi, nous avons un avantage, c'est que nous avons une grande administration, une administration sérieuse, une administration qui connaît bien son sujet et qui est capable justement de nous aider juridiquement, techniquement. Ce qui n'est pas le cas des petites communes qui, eux, les maires des petites communes, qui ont beaucoup plus de difficultés dans ce domaine-là.
Justement.
Et dernier élément, quand même, je me souviens de cette agression des gens du voyage. Bien sûr, j'ai porté plainte, comme je porte plainte systématiquement lorsqu'il y a ce genre d'événement se passe. Il faudrait aussi que, bien sûr, la justice suive. Cette agression a été suivie de rien du tout depuis 2 ans et demi.
Je
pense que ça peut tenir, il faudrait peut-être en tenir compte aussi.
Marie-Jeanne Béguet, on en parlait, il n'y a pas seulement la question de la sécurité, il y a aussi la question des moyens, des moyens que vous avez et qui sont en baisse aussi. C'est aussi un souci au quotidien, justement, pour répondre aux attentes de vos administrés.
Oui, effectivement, répondre aux attentes des administrés, c'est une question de moyens, mais pas que une question de moyens. Comme vous le soulignez, monsieur le maire de Viry-Châtillon, c'est aussi une question d'éducation. On est bien d'accord là-dessus.
Oui, ça, on l'aura compris, bien sûr.
je ne peux pas laisser dire que l'exercice du maire est plus aisé, plus facile dans une ville plus grande, parce qu'il aurait un service administratif plus adapté. Dans les petites communes, nous avons certes moins de services administratifs, mais je pense qu'en ce qui concerne la capacité à faire respecter la réglementation, nous sommes, je dirais, au même niveau. C'est surtout et c'est d'abord une question de volonté. Si effectivement nos concitoyens réagissent de façon que parfois surprenante, eh bien il y a certainement, et là je suis bien d'accord, un grand problème en termes d'éducation. Il parlait de la du stationnement à proximité de l'école, hein. Oui. Petite grande ville, je crois que c'est un problème récurrent, commun à tout le monde, et même presque quelque part incompréhensible. Ce sont les mêmes qui réclament la sécurité maximum dans les conseils d'école, et ce sont les mêmes qui se garent en travers. Voilà, c'est très compliqué. Mais ça, je pense que c'est pas une question d'administration, c'est une question de société.
On va terminer ce débat avec vous, Benjamin Morel. Si effectivement, alors on a entendu hein, les difficultés au quotidien, c'est important bien sûr de les révéler pour ces maires. S'il n'y a pas de candidat justement sur une élection municipale, comment ça se passe?
Alors théoriquement, vous avez plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous avez le préfet qui, c'est l'État hein, qui se substitue à ce moment-là à l'absence de candidat, et au bout d'un certain temps, eh bien, il y a une possibilité de voir la commune disparaître, voir la commune fusionner avec une autre commune de façon relativement autoritaire par les services de l'État.
Ouais.
Après, si vous voulez, on a cette enquête d'opinion qui très clairement est assez alarmiste avec ses 49% de maires.
C'est
qui ne représentent pas. Il faut également peut-être nuancer ça. D'abord parce que ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas une représentation, vous n'aurez pas de candidat. Et deuxièmement, parce que, bien comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on prend un petit peu les enquêtes qui sont menées vis-à-vis des élus, on voit que ce mandat de maire, malgré toutes ses difficultés, malgré toutes ces aujourd'hui toute la montée en puissance de ces divers problèmes, eh bien, ça reste un mandat auquel sont attachés les maires eux-mêmes. C'est-à-dire que justement, dans le contact qu'ils entretiennent avec les Français, dans la capacité en fait à voir eh bien la vie changer en partie grâce à eux, parce que justement ils sont aux commandes de ces politiques, c'est un mandat qui reste relativement satisfaisant. Donc il va quand même falloir voir si ces 49% vraiment ne se représentent pas et si justement ils ne vont pas céder au bout du compte à l'envie de continuer une politique publique qu'ils ont commencé à répondre à des administrés qui leur demandent et qui suscitent leur représentation. Donc voilà, il faut quand même peut-être nuancer tout ça, mais il est tout à fait clair que on a aujourd'hui un élu qui, dans la République, est fragilisé. Est-ce que le prochain projet de loi dont parlait Patrice Kanner
va
changer les choses? Il y a tout de même un certain nombre d'avancées qui sont notables en termes de rémunération, en termes d'assouplissement d'intercommunalité, en termes d'aide juridique au maire, parce que être maire, c'est dangereux du point de vue purement juridique.
Vous prenez un risque
lié à votre statut, en termes très pratiques, de garde, etc., de formation. Donc il y a des avancées. Est-ce que ces avancées seront suffisantes? Ça, c'est pas forcément évident, mais ça va être le débat. Ça va être le rôle du débat parlementaire, justement, d'enrichir ce projet.
Et on le suivra, bien sûr, à l'automne. Merci beaucoup. Le débat est déjà fini. Merci à vous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Merci, Patrick Kanner, d'avoir été avec nous en président du groupe Parti Socialiste au Sénat. Merci à Marie-Jeanne Béguet, présidente des maires ruraux de l'Ain. Et puis merci à vous, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon. Merci à vous tous d'avoir contribué à ce débat qu'on va clore avec le résultat du sondage. Je vous rappelle la question. Avez-vous peur de ne pas avoir de candidat dans votre commune pour les prochaines municipales du mois de mars? Mathilde, le résultat?
Malgré les témoignages, malgré les inquiétudes qu'on a entendues, ça ne bouge pas. À 82%, non, ils n'ont pas peur.
Eh bien, nos auditeurs sont rassurés. Allez, à 9h32, on se retrouve dans un instant pour faire un point sur l'info du jour.